Bonjour, bienvenue à Aime l'été, ici Chantal Lavoie, jeudi 24 août. Une autre belle émission qui se dessine devant nous, une heure d'agréable rencontre avec notamment nos jeunes recherchistes et chroniqueuses. Il y aura des sujets fort intéressants, aussi avec nos invités, des vélos que l'on répare, que l'on recycle, mais à travers une entreprise qui fait œuvre utile pour l'insertion socio-professionnelle. Aussi une exposition qui vaut le détour à Montréal pour les petits et grands, une merveilleuse exposition en papier. C'est donc un plaisir de vous retrouver pour cette avant-dernière journée de la semaine. C'est le décompte avant la fin de notre saison estivale qui aura été chargée en événements de toutes sortes, des événements heureux et moins heureux bien sûr, mais néanmoins un été riche d'activités en tout genre. Voici Aime l'été! Et aujourd'hui, on aura notre jeune recherchiste chroniqueuse Aya Jennifer Ando qui parlera de rêve aujourd'hui. Et oui, aussi au menu, Vélo Vert est un organisme qui accompagne des personnes qui vivent des difficultés sociales et professionnelles afin de les préparer à regagner le marché du travail. Et tout cela se fait à travers un atelier de réparation et de revente de vélos. On en discute avec Marianne Dumais-Campeau, conseillère en insertion sociale pour l'organisme, mais aussi on aura un autre invité qui va nous parler aussi du volet plus, enfin, réparation et tout, là. Mais d'abord, on se souvient de Claude Lafortune, ce poète artiste du papier qui s'est fait connaître avec l'émission de Radio-Canada, L'Évangile en papier. Un grand ami à lui vient nous parler dans un instant d'une merveilleuse exposition présentée à Montréal, un projet sur lequel Claude Lafortune a travaillé pendant 2 ans. Alors j'accueille dans un instant Jean-François Royal, directeur général du site historique Marguerite Bourgeois, où est présent l'exposition L'Arche de Noé. Pour en savoir davantage, suivez-nous à Aime l'été. Alors oui, alors je voulais juste rajouter, effectivement, on a 2 invités pour parler du vélo vert. Effectivement, il y aura Marianne Dumais-Campeau, conseillère en insertion socio-professionnelle pour l'organisme Le Vélo Vert, mais aussi Luis Antonio Villamizar, directeur général de l'organisme Vélo Vert. Voilà. Alors, tout de suite, j'accueille notre premier invité pour parler de cette merveilleuse exposition en papier. Et oui, le directeur général du site historique Marguerite Bourgeois, Jean-François Royal, bonjour.
Bonjour.
Ah bon, comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
Ah oui, c'est ça. Très contente de vous parler de cette magnifique exposition. On a parlé de Claude Lafortune, bien sûr, qui a travaillé pendant plusieurs années sur ce projet. Vous êtes un grand ami à lui. On sait qu'il est malheureusement décédé des suites de la COVID il y a 2 ans à peu près, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça. En fait, au tout début de la pandémie, là, Claude malheureusement nous a quittés, là, donc c'est une grande perte.
Absolument.
Artistique et émotive, là,
tout
oui,
à
vraiment.
Fait. Puis, c'était...
On le ressent, là, les gens qui viennent visiter l'exposition cet été ont gardé un souvenir impérissable de cet homme qui était très bon et gentil.
Un grand humaniste aussi, hein?
Ah oui, oui, tout à fait, un visionnaire même, là,
oui.
Avec son émission Parcelle de soleil, il parlait déjà de l'acceptation de la différence chez les
c'est
autres.
Vrai.
Et on est dans cette thématique-là très à la mode aujourd'hui, mais déjà lui, dans les années 90, il le mettait à l'avant-scène. Donc, non, vraiment une grande perte, mais quelle joie j'ai eue dans ma vie de pouvoir travailler
avec
lui.
Oui, de travailler avec lui, effectivement, sur d'autres expositions, d'ailleurs.
Oui,
et puis,
ben, oui.
Évidemment, ce qui me réconforte, en fait, c'est que, bon, d'abord, on va en parler, évidemment, il a gagné sa vie avec du papier, de la colle et des ciseaux, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis, mais ce qui me rassure, en fait, c'est qu'il y a de la relève, en quelque sorte, parce qu'il avait une technique aussi bien à lui, de sorte que, oui, ses petits-enfants, il y a un de ses petits-fils, je pense,
oui,
qui a pris le relais.
Oui, Dominique, en fait, qui perpétue la tradition et avec un talent remarquable donc travaille la même technique que son grand-père, mais avec le luxe de pouvoir un peu plus prendre son temps. Claude avait cette contrainte télévisuelle d'avoir à produire rapidement des pièces, donc ce qui lui a permis de mettre au point cette technique là, du cône et de jouer avec ça. Dominique, lui, prend plus de temps pour réaliser une sculpture de papier avec plus de détails, mais toujours avec la même technique. Et on aura la chance cet automne d'avoir des ateliers ici offerts par Dominique au musée là, pour les gens qui sont intéressés
à
m'apprendre davantage là, sur cette technique.
Et avoir peut-être...
Se rapprocher de Claude un peu.
Exactement. Pendant donc 25 ans, les jeunes publics, et enfin, les jeunes publics d'autrefois, parce que bon, c'est sûr que les jeunes publics d'autrefois, ben, ce sont les adultes plus vieillissants d'aujourd'hui, c'est sûr. Et puis bon, alors, c'est ça. Donc, l'Évangile en papier, qui n'était pas une émission, a priori, c'était pas quelqu'un qui parlait nécessairement de religion. C'était vraiment dans le but de raconter une belle histoire.
Oui. Oui, Claude était un conteur et c'était l'idée de base de l'émission d'Évangile en papier, de raconter une histoire histoire palpitante et avec pleine d'action, qui est l'histoire de l'Évangile. Et donc, cette émission-là qui a été diffusée, je pense, de 72 à 73 à Radio-Canada, mais par la suite rediffusé de nombreuses années et qui a collé à la peau de Claude comme étant le monsieur qui fait du bricolage ou de papier. Et mots qu'il n'aimait pas. Là. Claude faisait des sculptures de papier là, et c'est ce qu'on présente là, au musée.
Exactement, oui, tout à fait.
Oui.
Mais
oui.
Bon, c'est ça. Donc, il a été un visionnaire, vous l'avez dit. Par rapport à la différence, mais l'écologie, l'histoire, les valeurs humaines, bien sûr, c'est vraiment, c'était vraiment au cœur de sa démarche. Alors, et puis là, ben, c'est ça. Vous aviez ce projet de l'Arche de Noé depuis un certain temps, puisqu'il a quand même mis 2 ans à travailler sur ce projet.
Oui, ben en fait, après notre première exposition à Nicolette, le col papier ciseau, Claude avait un désir là, de création qui l'habitait toujours et de fil en aiguille, on en est venu à avoir là, cette idée ensemble de travailler une exposition qui s'appelait donc l'Arche de Noé, selon Claude Lafortune, et ce qui permettait donc à Claude de créer des animaux de papier et au musée de Nicolette de parler donc de l'histoire de Noé, et qui est une histoire aussi qui est propre à d'autres traditions religieuses. Donc, ça permettait de mettre en contexte cette histoire, encore une fois, mais de mettre aussi en évidence le talent immense de Claude et de ses sculptures de papier. Et là, ici, bon, on a tout bonnement décidé de présenter cette exposition là qui provient du musée de Nicolette. Là.
C'est ça, parce que ça a été présenté donc en région. Et là, on a la chance de voir ça à Montréal. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose. Au moins, ça, on l'aura. Vous l'aurez toujours, cette exposition. C'est-à-dire que vous allez, bien sûr, la préserver. Parce que lui, là, tout ce qu'il a fait là, dans le cadre, entre autres, des émissions de télé, il travaillait rapidement, comme vous dites. Puis c'était pas quelqu'un qui conservait ces choses, dans le sens qu'il réutilisait souvent ces petites sculptures pour en faire d'autres choses. Donc, le matériel d'autrefois s'est un peu perdu, en fait, en quelque sorte, oui.
Ah, écoutez, c'était tout un défi lors de la première exposition parce que justement, on a voulu mettre en valeur et parler de la carrière de Claude. Donc, trouver des archives télévisuelles, ça allait, mais de trouver des sculptures qui avaient résisté à l'époque, écoutez, pour nous, ça a été tout un défi parce que justement, cette réutilisation-là faisait que un Romain pouvait devenir après ça Marie-Madeleine, pouvait devenir après ça un sage dans une autre émission et un peu le seul personnage qui a résisté, en fait, c'est Jésus, parce que Jésus apparaissait dans toutes les épisodes.
Ah, ben là, c'est vrai.
Et donc, il n'y avait pas, il ne retravaillait pas, et donc, c'est un des personnages qui a demeuré. Mais les autres, non, vous avez raison. Ça a été pour nous tout un casse-tête et Claude était conscient de cette notion-là d'éphémérité avec le papier. C'est quelque chose même qui lui plaisait,
oui,
même si
vrai.
Là, vous avez raison, les œuvres qui ont été produites dans le cadre d'exposition de l'Arche de Noé vont être conservées là, au musée de Nicolette. Là, ils appartiennent au musée
et
vont être préservés pour la postérité.
Exact. Bon, parce que ce sont des bijoux, bien sûr, vraiment, c'est que là, il faut vraiment empêcher les gens touchés parce que parfois, ils sont même sceptiques. Hein? Ils pensent que c'est que les costumes, ça peut être même du tissu. C'est tellement... c'est fou ce qu'il arrive à faire. On pense que c'est des vraies plumes tellement que sa façon de travailler le papier est exceptionnelle.
Ah oui, l'exemple que vous donnez est parfait. Le hara avec les plumes, les gens sont convaincus à distance que ce sont des plumes d'oiseaux, mais c'est vraiment en s'approchant qu'on se rend compte que c'est des coups de ciseaux, en fait des milliers de coups de ciseaux dans du papier. Et oui, la tentation est assez forte.
Les gens sont
respectueux, mais je dois vous avouer que si on permettait aux gens de toucher, d'après moi, 100% des visiteurs toucheraient aux sculptures parce qu'ils sont vraiment impressionné de le grand talent de Claude, mais de ce qu'il réussit à donner comme émotion, comme mouvement au papier. On a l'impression que c'est des poils, on a l'impression que c'est des fils. On a vraiment cette image-là et ce qui nous fait démontrer, hors de tout doute, l'immense talent de Claude.
C'est ça. Donc, et je conseille aux gens d'aller lire sur qui était Claude Lafortune si vous ne le connaissez pas, parce que vraiment, c'est quelqu'un de très important qui a fait beaucoup aussi, qui s'est beaucoup impliqué, du bénévolat. Puis pour lui, les enfants, hein, c'était sacré, les enfants. Je pense qu'il est allé dans les hôpitaux aussi. Il a fait beaucoup de choses. Vraiment, c'est un grand humaniste, ouais.
Ah, tout à fait. On a perdu un homme, non seulement un homme de télé, non seulement un artiste, mais quelqu'un avec une grande compréhension de la nature humaine, une grande écoute, une grande empathie. Donc, ça se transmet dans son œuvre, dans ce qui reste de lui. Donc, je suis assez fier de pouvoir perpétuer la mémoire de Claude par son travail artistique et de le faire découvrir donc aux visiteurs qui viennent nous voir et qui soit redécouvrent l'œuvre de Claude ou carrément découvrent l'œuvre pour la première fois.
Ouais, donc c'est ça. Alors vraiment, et puis c'est ça, il s'est inspiré aussi, c'est-à-dire que je pense que dans cette arche de Noé, là, je pense qu'il reproduit aussi un petit peu l'image de sa mère, de ses enfants à travers tout ça. Hein. C'est intéressant.
Oui, tout à fait. En fait,
un beau clin d'œil à sa famille.
Et oui, on peut, quand on connaît les membres de la famille et qu'on voit certaines de ces sculptures, on reconnaît donc les enfants, les petits-enfants, les membres de la famille, là, visiblement dans les visages et dans les traits. Donc, c'est aussi effectivement un beau clin d'œil. Là.
Donc, évidemment, ça va intéresser les enfants, mais les plus vieux aussi qui ont connu l'Évangile en papier et toutes les autres émissions, bien entendu. Et puis, bon, c'est ça, il y a quand même, c'est ça, des... bon, est-ce que, bon, les enfants de tous âges, ou à peu près, bien évidemment, à partir peut-être, bon, de 8-10 ans, certainement.
En fait, oui, je vous dirais, là, même dès 5-6 ans. Et ce qu'on remarque cet été, c'est que là, on a beaucoup de grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants et qui sont parfois même plus excités que les petits-enfants à découvrir les sculptures parce que ça leur rappelle des souvenirs et des choses qu'ils ont vues à la télévision. Et là, il y a une transmission aussi intergénérationnelle qui est très intéressante parce que là, on fait et on explique aux enfants qui était Claude Lafortune, le temps qu'on passait à la télévision, la découverte de cet artiste et de cet animateur de télé. Donc, on entend vraiment des grands-parents ou des parents dialoguer, discuter avec leur enfant pour expliquer des souvenirs qu'ils ont eus et qu'ils partagent. Donc, c'est vraiment touchant pour nous là, de voir cette transmission faite par l'intermédiaire des œuvres de Claude.
Exact. Alors, l'ultime exposition de Claude Lafortune qui s'arrête à Montréal, ça va être présenté quand même assez longtemps, hein, je pense.
Oui, c'est jusqu'au mois de mars, ici au musée, là, le 21 mars, bon. Si je ne m'abuse. Donc, vous pouvez consulter là, notre site Internet et aussi là, vous abonner à notre infolettre là, pour avoir toutes les activités. Et donc, comme je vous disais aussi cet automne, là, des activités de sculpture de papier avec Dominique Lafortune, là, des classes de maître là, pour les gens qui sont intéressés.
Ben oui, tout à fait. Et puis évidemment, l'Arche de Noé, c'est sûr que bon, on peut pas s'empêcher aussi peut-être de faire le lien avec bon les changements climatiques, en fait les réfugiés climatiques, ça peut être ça. Hein? Ben bien sûr, il était visionnaire à la fois. Oui, c'est ça. Mais chose certaine, oui, bon, c'est un site incroyable que le site Marguerite Bourgeois, ce musée qui est attenant finalement aussi à la chapelle Notre-Dame du Bon Secours. Alors, il y a plein de choses. Il faut absolument aller sur votre site parce que d'abord, je pense qu'il y a même une animation aujourd'hui même aussi, des activités à faire aujourd'hui. Je sais qu'il y avait, c'est ça, il y avait quelque chose qui était au programme.
Oui.
Et puis donc, tout au long de l'été, ça se poursuit. Et puis, ben, tout au long de l'année, vraiment de belles activités. Il faut vraiment aller voir ça.
Bien, écoutez, oui, on vous invite parce que le site est complet. Comme vous le dites, on a la chapelle, on a le belvédère, on a la voûte, on a un site archéologique sous la chapelle, le musée qui comprend l'expo permanente, l'expo temporaire sur Claude Lafortune. Donc, c'est vraiment un bijou méconnu à l'est du Vieux-Montréal. Les gens se souviennent d'être passés devant la chapelle, mais quand ils rentrent dedans, on redécouvre cette splendeur du Vieux-Montréal.
Parce qu'il y a toujours de beaux concerts aussi à la chapelle, ça, il y a toute
Une
programmation. Mais évidemment, il y a le musée, alors très important. Puis on va en savoir davantage aussi sur Marguerite. Qui était Marguerite Bourgeois? Ça, c'est l'exposition quand même permanente.
Et oui, une femme encore méconnue. Là. Marguerite, c'est plus qu'une commission scolaire ou une école ou deux au Québec. Là, c'est vraiment une femme visionnaire, la première féministe à notre avis à l'époque, là, qui avait vraiment des ambitions d'éducation qui sont encore en vigueur aujourd'hui dans notre système d'éducation. Là, Marguerite rêvait de travailler sur les compétences des gens. Elle rêvait que tous les Montréalais sachent lire et écrire leur nom. Donc, elle était vraiment une femme d'affaires redoutable.
C'est ça. Puis enfin, donc ça, c'est intéressant, ce volet-là. Maintenant, aussi, le site archéologique, bon, il y a un site sous le musée comme tel.
Oui, c'est la surprise des gens. Donc, sous le musée, on a les vestiges, donc les fondations de la première chapelle, celle construite par Marguerite. Parce que la chapelle qu'on voit actuellement aujourd'hui, c'est la deuxième chapelle, parce que la première a passé au feu en 1754. Mm-hmm. Et donc, les gens peuvent découvrir les vestiges. On voit les traces de l'incendie. On a des traces de foyers autochtones et d'occupations autochtones. Donc, c'est vraiment 2400 ans d'histoire sous la chapelle qui se dévoile. Et c'est vraiment une visite très prisée des gens qui osent la découvrir là, parce que c'est gratuit. C'est dans le prix de la billetterie du musée. Il n'y a pas de supplément. Donc, souvent, on invite les gens à venir. Puis, des fois, il y en a qui nous disent non. Puis, on leur dit non, venez. Vous allez adorer de pouvoir pénétrer sous le lieu. Vous êtes sous la chapelle. On entend les gens marcher au-dessus sur notre tête. Donc, c'est vraiment une ambiance très particulière.
Ah, très spécial. Alors ça fait déjà, évidemment, on en a beaucoup déjà à faire de votre côté. Puis vous avez quand même, dès le début de votre mandat, changé un petit peu l'intégralité du parcours, là, si on veut. C'est-à-dire, vous avez aussi fait entrer le musée dans la modernité, en quelque sorte.
Bien, on a tenté là, d'être de notre temps, justement, pour éviter d'être classé comme un vieux musée poussiéreux. Donc, on a revu l'expo permanente, on a intégré du numérique, on a intégré de l'interactivité avec les téléphones. Les gens donc peuvent scanner des pastilles, aller chercher de l'information, des vidéos, des photos supplémentaires pour ceux qui sont intéressés par l'histoire puis qui veulent en savoir plus. Cette année, on fête le 250e anniversaire.
Oui, c'est vrai,
de la
250
chapelle.
Ans.
Et donc là, on a numérisé la chapelle. On s'est payé un cadeau. Donc, on l'a scanné au complet, en dedans et dehors. Et donc, ça va nous permettre non seulement d'avoir des plans très précis de notre belle beauté, mais aussi de pouvoir faire de la réalité augmentée éventuellement.
Oui, exactement, réalité virtuelle et tout, c'est ça.
C'est ça. Donc, on va, effectivement, là, on est dans la modernité de notre temps. Il faut répondre aussi aux exigences des visiteurs. Donc, ça fait partie de ce qu'on nous demande. Donc, on avance tranquillement.
Ben, bravo pour votre travail, Jean-François Royal, directeur général du site historique Marguerite Bourgeois. Alors, beaucoup à découvrir, dont cette exposition « L'Arche de Noé », selon Claude Lafortune, évidemment, votre grand ami. Alors, ça a été un plaisir de vous accueillir.
Bien, merci beaucoup et bienvenue à tous vos auditeurs et bonne fin d'été. Il
nous
reste encore là, quelques semaines.
Ah oui, profiter. On va en profiter pleinement. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
sur le grand lit. 5 heures du matin, je te vois perdu tout là-bas.
Septième point. Arthur H., Onirique Attaque.
Et oui, alors, je pense que vous avez entendu le mot « rêve » à plus d'une reprise dans la chanson. Et puis, c'est une belle introduction à notre prochain sujet. Justement, on va aborder la question des rêves. Évidemment, bon, avec Aya Jennifer Ando, qui ne prétend pas être une spécialiste des rêves.
Absolument.
Mais
pas.
Vraiment, ça t'a juste intrigué. Et tu as voulu faire ta propre petite recherche. Et puis, on peut partager nos expériences personnelles de rêves. Alors, voilà. C'est ça. As-tu trouvé pourquoi et à quoi rêve-t-on?
Moi, c'est vraiment cette question que je me suis posée et j'ai eu des réponses, j'ai cherché. Donc, comment le cerveau construit des scénarios complexes et détaillés dans notre tête? Donc, je me suis intéressée sur le sujet puisqu'il m'arrive souvent de m'en rappeler et des fois, non. Donc, j'ai appris par exemple que tout le monde rêve durant la nuit. Donc, durant un sommeil lent aussi, donc on peut toujours rêver. Que les gros rêveurs sont surtout des femmes. Donc,
ça, c'est étonnant, ça. Bon, en fait, il y a une raison précise pour ça.
Ben, ils disent que les femmes dorment d'un sommeil plus léger, se réveillent plus souvent, mais aussi racontent plus aisément leurs rêves. Et les personnes créatives, plus attentives, sans doute... grâce à notre environnement. Donc, les femmes sont plus créatives et plus attentives aussi.
Ouais.
Donc, elles se rappellent aussi de leurs rêves plus facilement.
Mais c'est vrai qu'il faut quand même, pour s'en rappeler, c'est ça l'affaire, c'est qu'on rêve toute la nuit, ben, à certains moments précis,
oui, oui, oui.
Là, évidemment. Mais c'est vrai que en fait, on ne peut pas se souvenir de nos rêves dans la mesure où si ça arrive au beau milieu de la nuit puis qu'on a vraiment dormi beaucoup par la suite, probablement mm-hmm. qu'on ne s'en souviendra pas, à moins de s'être réveillé peu après ou enfin d'avoir le sommeil assez léger pour qu'on puisse... prendre conscience qu'on vient de rêver à telle chose, parce qu'autrement,
ouais, ouais.
on s'en souviendra pas, c'est
oui.
sûr. C'est pour ça qu'on se souvient toujours de nos rêves le matin, quand
oui.
on est sur le point de se réveiller.
Oui, absolument.
Alors là, c'est les femmes qui... ouais, c'est ça. Donc, ouais. il y aurait le sommeil plus léger.
Oui, absolument. Il paraît aussi que s'agiter, grimacer, crier en dormant n'est pas forcément synonyme de rêve difficile et que le cauchemar n'a souvent aucun lien avec le niveau d'angoisse du dormeur.
Ah, bon, ben c'est ça. Ben, en tout cas, ça, c'est un beau sujet à venir parce qu'on va s'arrêter déjà, nous, le temps d'une pause. Oui, ce sera pas... c'était court en première partie,
oui, oui.
mais on aura du temps pour en parler après. Alors, on a juste mis la table... Aya, c'est ça, on a mis la table pour en parler davantage tout de suite après la pause. Alors, on y revient, on parlera évidemment, c'est ça, de nos rêves, de nos cauchemars, et puis on partagera peut-être certains rêves plus, enfin, qui ne se disent pas à la radio, peut-être, on ne sait pas. À tout de suite.
Écoutez, aime l'été.
Et oui, deuxième moitié d'émission. J'en profite pour remercier Claire Guérin à la recherche de cette émission et Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. On parlait avec Aya Jennifer Ando des rêves en première partie, donc.
Oui.
Et puis là, ben, en fait, tu voulais nous parler aussi, tu as fait ta petite recherche parce que, bon, tu prétends pas être toi une spécialiste des rêves, bien entendu. Alors, il y a Isabelle Arnulf, neurologue et professeure à l'Université de Sorbonne en France, qui a fait des recherches sur le sommeil et les rêves, entre autres. Et puis, qu'est-ce qu'elle nous le dit, cette dame?
Ben, il faut savoir rêves. Aussi que cette dame, elle dirige un service dédié aux pathologies du sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Oui.
Salpêtrière, donc c'est vraiment en France aussi. Donc, elle affirme que 86% des rêves font référence aux événements de la journée ou de la veille. Mais il s'agit rarement d'un copier-coller des faits. Ce que nous vivons le jour est intégré dans des scénarios. Parfois, c'est décousu et ça peut nous laisser une impression de grand n'importe quoi.
C'est vrai, oui, tout à fait.
Mais en réalité, cela s'explique très bien par le cheminement du rêve. Quelques images sont activées dans le tronc cérébral, puis passées à la moulinette par le reste du cerveau qui brode.
La moulinette
de notre cerveau. Donc, ces rêves ont beau nous sembler inintéressants ou stupides, ils n'en demeurent pas moins précieux à notre bon fonctionnement. Ils optimisent la mémorisation des événements de la veille et consolident des apprentissages. La neurologue nous apprend que le lendemain, le gain de performance est d'environ 20%. Donc, par exemple, les professeurs nous ont toujours dit, ben, relisez vos leçons, tout.
Juste avant d'aller se coucher.
Juste avant de se coucher. Mais ce n'est pas un conseil en vain parce que ça marche vraiment.
Oui, c'est ça. Puis on peut rêver, on peut rêver finalement, c'est ça, à notre examen qui s'en vient, ouais, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est, ça nous semble toujours un petit peu sorti de nulle part, nos rêves. C'est vraiment... en fait, c'est pas que ça... C'est bizarre, c'est vraiment... Ça n'a pas de suite. Et puis, bon, c'est sûr que là, on a toutes sortes de... ben, je pense qu'il y a des rêves qu'on a tous en commun. On va y revenir. Mais parle-nous aussi du cauchemar.
Oui, donc le cauchemar, c'est un sentiment désagréable. On n'a pas envie vraiment de rêver d'agression, d'humiliation, de trahison. Mais on se passerait bien de ces scénarios-là. Mais ces rêves-là sont vraiment importants pour nous. Donc, ces scénarios catastrophiques qui peuvent provoquer une insomnie ou impacter notre humeur durant la journée nous apprennent la recherche, un signe de bonne santé psychique. Donc, ouais. Les rêves contiennent en moyenne deux fois plus d'émotions négatives que positives. C'est ce que notre neurologue nous précise. Et c'est d'autant plus le cas durant le sommeil paradoxal. Donc, on va peut-être y revenir peut-être la semaine prochaine de différents types de rêves. Okay. Je vais plus expliquer ça. Mais pour les cauchemars, à quoi ça sert?
Ouais.
Sinon à nous traumatiser, par exemple. Ouais. L'une des théories est en cours, c'est qu'en rêvant, on simule des menaces ou des situations dangereuses pour mieux y faire face dans la journée et entraîner nos stratégies de défense.
Ouais. Mais ça peut quand même trahir une certaine angoisse quand même. Ça peut certainement, j'imagine, c'est ça, traduire. Ça peut être un signal d'alarme, hein, quelque chose nous inquiète, nous dérange. Là, j'ai déjà fait ce genre des fois de rêve. Ben, un petit peu prémonitoire, tu sais, t'allais rencontrer quelqu'un, puis bon, t'avais l'impression que ça allait peut-être mal se passer, je sais pas, puis tu sais, tu rêvais à quelque chose qui avait un certain sens. Moi, je me souviens, ça m'angoissait d'aller rencontrer quelqu'un, puis finalement, je tombais dans une espèce de bassin d'algues, là, puis ça m'envahissait, et puis, ben, il y avait un lien avec la rencontre que je devais faire, pour me dire, c'est pas une bonne idée.
C'est pas une bonne idée de voir cette personne-là. Ouais. Mais par exemple, ils ont fait une recherche en 2013 qui démontrait que 60% des étudiants de médecine qui, le lendemain, passaient le concours, avaient rêvé de l'épreuve la veille. Donc, et c'est 78% de cette personne-là, ils ont rêvé de l'examen de façon négative. Donc, panne de réveil, arrivée en retard, oubli de leur cas d'étudiant. Mais il a apparu que ce dernier groupe de 78% qui ont rêvé vraiment... vraiment mal de leur expérience, ben ils ont mieux réussi l'examen.
Ah, c'était le contraire.
C'est ça. Souvent, les cauchemars, c'est signes qui nous dérangent le plus dans un rêve, mais finalement, c'est juste pour nous aider le lendemain à foncer. Donc,
à affronter cette bête. Oui, c'est ça. Ça peut être un bon signe, effectivement. Alors, donc, c'est pas nécessairement... le cauchemar, tout ça, et ce n'est pas nécessairement négatif, bien au contraire, hein, ça peut nous aider à affronter des épreuves, finalement. D'accord. Mais il y a des rêves, comme on le disait tantôt, qui appartiennent un peu, à tout le monde. C'est-à-dire qu'on fait tous, quand on se met à parler des rêves, hein, c'est fréquent, autour d'une table, ben, on finit par s'apercevoir qu'on rêve à peu près tous de la même chose.
Ouais.
Et puis bon, alors, entre autres, là, tu as noté perdre ses dents.
Oui, voler, perdre ses dents, être nu en public, ça m'arrive
c'est
pas
ça,
mal
C'est ça, voler
beaucoup.
Comme un oiseau, là.
Oui.
Ouais.
Donc, être dans l'incapacité de fuir ont été faits au moins une fois par quasiment tout le monde. Donc, à certains moments de la nuit, le cerveau se coupe presque totalement du monde extérieur, ce qui favorise sans doute les rêves vestibulaires, donc voler, sortir de son corps, se déplacer en nageant. Isabelle Arneuf nous apprend que, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, dans un sommeil paradoxal, le dormeur est imperméable à 75% des stimuli
extérieurs, finalement. Enfin, on n'entend pas. Tu sais, c'est-à-dire,
on n'entend rien.
Exact, oui.
Donc, ne percevant plus l'information sensorielle liée à la pesanteur, le cerveau imagine lui-même des scénarios pour expliquer cette absence. Donc, son corps est généralement paralysé. Donc, quand, par exemple, on dort, quand on a une sensation de vouloir s'enfuir, ben, c'est impossible. Mais notre
on n'est pas capable, c'est vrai.
Simplement
ça
paralysé.
Ça a toujours été ça. Quand on faisait souvent petit même, ça nous arrivait. Moi, je me souviens très bien là, qu'on court, on est poursuivi par une bête méchante. Et puis, là, on arrive. pas. On essaie, mais c'est impossible.
C'est impossible d'y aller.
Oui, c'est ça.
Mais une chose aussi, c'est que quand on rêve, par exemple, de tomber dans un puits, mais ça, c'est juste simplement quand on commence à dormir et il y a juste un relâchement des muscles.
Des muscles, là, d'accord.
Donc, quand les muscles se relâchent, on a cette sensation de tomber dans un fond. Puis après, quand notre cerveau, il prend peur, on se réveille directement. Moi, ça m'arrive beaucoup de me réveiller parce que j'ai l'impression de tomber. À ce moment-là, t'es semi-paralysé.
OK,
pas tout le
temps. Comprends. Oui, ça a du sens. OK.
Parfait. Et on parle maintenant des rêves sous contrôle. Eh bien, ça existe.
Ah, des rêves lucides, là?
Oui. Donc, des rêves qui sont... On est conscient de rêver tout en restant endormi. Donc, certains parviennent même à modifier le scénario de leur rêve.
Ah, c'est ça. On veut que ça continue. Oui. Alors, évidemment, des rêves, disons, on rêve à quelqu'un de qu'on aime particulièrement. Oui. Là, on s'imagine toutes sortes de scénarios, on veut que ça continue. Tu es dans un baiser passionné, tu veux remettre ça, là, c'est sûr. Ou tu n'es même pas encore rendu là, mais tu veux en arriver là, c'est sûr. Tu fais tout pour poursuivre le rêve.
Il paraît qu'on peut s'entraîner pour pouvoir, par exemple, faire apparaître des personnages, communiquer à quelqu'un d'extérieur le contenu du rêve. Parce que moi, par exemple, j'arrive pas encore à contrôler ces rêves-là. Quand je vois qu'il y a un vraiment bon rêve, puis je me lève pour comme aller faire pipi, puis je reviens, je suis comme...
Ah, c'est ça.
Ah,
c'est
j'aimerais que difficile. Le rêve... C'est vraiment plus difficile, mais il paraît qu'en 6 mois, on peut vraiment contrôler nos rêves, apprendre à les contrôler. Il y a des méthodes pour ça.
OK.
Sûrement qu'on va en parler la semaine prochaine.
Il faut travailler fort, parce qu'effectivement, ça vaut la peine des fois. Bien sûr, parce qu'on aimerait continuer nos rêves, puis on dirait que notre cerveau, finalement, il nous coupe ça des fois
au
mauvais moment.
Une alarme.
Fou, on ne sait pas pourquoi. Ah oui, ça arrive comme ça avec une alarme. Tu te dis, mais c'est pas possible. J'en reviens pas de se faire couper l'herbe sous le pied comme ça.
Vraiment.
Alors qu'on arrivait au meilleur, finalement.
Je pense que c'est mieux de le faire dans la réalité que dans un rêve.
Bon,
faut faire en sorte que les rêves deviennent une réalité.
Ouais.
C'est un conseil que je donnerais aujourd'hui.
Alors bon, parfait. Est-ce qu'elle avait d'autres choses à nous dire, Isabelle Arnulf?
C'était pas mal ça. Puis je vais donner plus d'informations la semaine prochaine.
Okay,
on va continuer.
On va y revenir.
Avec
en tout cas,
rêves.
Je me souviens très bien. Petite, là, je conduisais l'auto très, très, très jeune, en fait, dans ma tête, mais je me rendais jamais. Mais vous savez, ces rêves aussi, où on s'en va quelque part, mais on n'y arrive jamais. On va s'empêtrer, là. La maison va être pleine de labyrinthes et puis ce ne sera pas possible.
Oui,
c'est fou.
Oui.
Alors, il ne faut jamais dire je reviens dans un rêve parce que tu ne reviendras jamais. OK, on s'arrête évidemment ici. Aya, merci pour cet entretien sur les rêves. Et puis, on rejoint tout de suite après la musique qui va suivre. On rejoint nos prochains invités.
Drôle de vie, jour difficile, je suis à tomber par terre. Plus de nerfs, je veux tout lancer en l'air, tout abandonner. Mes projets, même les plus chers, me sont nuls à mourir. Plus rien ne sait me retenir, ne sait me satisfaire. Je ne me reconnais plus quand le monstre ordinaire. Et quand je roule à vélo, la tête dans les étoiles et dans le vide, le vent est doux, j'hallucine. Je roule à vélo, la nuit est claire, le chemin. Et si ça se trouve, je ne rêve à rien. Et si ça se trouve, pire, je ne rêve à personne. Voilà pour les êtres, voilà pour les choses.
C'est un extrait de la chanson « Intouchable et immortel » de Daniel Bélanger.
Et oui, et puis ça parlait de vélo et de rêve. Enfin, c'est nos deux sujets de la dernière demi-heure. Et puis, ben, j'accueille tout de suite Marianne Dumais-Campo et Luis Antonio Villamizar. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, ben, chacun, vous avez bon votre fonction, c'est-à-dire que M. Villamizar, vous êtes directeur général pour l'organisme Le Vélo Vert. Et dans le cas de Marianne Dumais, eh ben, vous vous occupez finalement du volet insertion sociale.
Oui, insertion socio-professionnelle, oui.
Oui, effectivement, on doit dire ça comme ça, oui, c'est préférable. Et puis bon, alors, chacun, vous allez me parler finalement de cette entreprise, mais bon, différemment, parce qu'évidemment, ça combine à la fois une entreprise de vélos où on va finalement vendre des vélos usagés d'occasion, des vélos réusinés, des vélos neufs. Eh bien, bon, dans le cas de M. Villamizar, là, est-ce que je prononce bien votre nom d'abord?
Oui, c'est bien ça, Villamizar, c'est bien.
D'accord. Et puis là, bon, c'est vous qui avez eu l'idée, finalement, dans votre entreprise, d'intégrer des gens, finalement, qui ont, enfin, aider des gens à réintégrer le marché de l'emploi?
Non, ce n'était pas mon idée. En fait, Vélovert existait déjà depuis 1998. Donc, c'est M. Guy Lézard,
le
premier directeur général et fondateur de l'organisme. Moi, j'ai eu la chance de prendre la relève à la direction en 2013. Mais je travaillais déjà dans l'organisme comme adjoint administratif de 2007 à 2013.
Donc, ce sont des gens qui, c'est ça, veulent à la fois intégrer le marché de l'emploi, le marché du travail. Et puis, bon, dans le cas de l'entreprise. Donc, ça existe quand même, c'est ça, depuis combien de temps déjà, cette entreprise, vous m'avez dit?
25 ans.
C'est 25
déjà,
ans,
ça, hein? 25 ans, en effet. En fait, à l'époque, l'ancien directeur a été visionnaire. Il y avait une problématique au niveau des vélos qui traînaient un peu partout dans la ville de Québec. Et de l'autre côté, il y avait une clientèle là, qui était exclue du marché du travail puis pour laquelle c'était difficile d'avoir accès. Donc, on combinait ces deux défis-là, puis ça a donné naissance à Vélo Vert.
Eh oui. Alors, Marianne, c'est ça, donc, je lisais à propos de l'entreprise et tout ça, puis de la réinsertion socio-professionnelle. S'inscrire dans un programme d'insertion professionnelle, c'est comme l'abonnement à un centre de conditionnement physique. Dans un cas, c'est l'entraînement pour remettre son corps en forme, mais alors que la réinsertion sociale au marché du travail, c'est l'exercice pour réapprendre à travailler, puis retrouver un emploi, le conserver, c'est un défi pour beaucoup de gens.
Tout à fait. J'aurais pas mieux expliqué la chose, mais oui, effectivement, là, on accueille une variété de clientèles différentes là, qui ont des problématiques diverses. Là. Donc, c'est sûr que ça demande aussi beaucoup d'adaptation selon la personne avec qui... la personne qu'on accompagne, en fait.
Oui, parce que ça peut être des gens qui ont eu des problèmes de consommation, des gens qui ont eu des dépressions, qui viennent de milieux aussi très différents, parce que c'est bien évident qu'il y a des gens qui ont vécu des traumatismes, c'est ça, et donc ça peut être des gens qui ont été à l'emploi, des fois, qui ont eu des emplois très... qui peuvent, à la limite, avoir eu des emplois quand même prestigieux, mais qui sont tombés, par toutes sortes de traumatismes qu'ils ont subis, toutes sortes d'événements tragiques parfois aussi.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ça peut être suite à des événements de vie, des épisodes de consommation, des problématiques de santé mentale. Dans certains cas aussi, il y a des personnes qui sont judiciarisées. Puis oui, effectivement, on a toutes sortes de personnes au niveau scolaire aussi. Là. Il y a des gens qui ont une faible scolarité, mais on a aussi des gens qui ont des diplômes du cégep, de l'université, tout ça. Donc, c'est ça. C'est pas toujours juste une question d'éducation. Là. Malheureusement, on peut tous faire face à des obstacles à un moment ou à un autre de notre vie. Fait qu'ici, ben, le but, c'est d'accueillir tout le monde avec les problématiques puis les choses qui ont à travailler. Là.
Exactement. Et on retrouve quand même partout au Québec des entreprises comme ça, d'économie sociale, qui font du vélo leur cheval de bataille un petit peu là, avec ce genre de mission. Vous êtes dans la région de Québec.
Oui, tout à fait. Mais effectivement, il y a aussi une entreprise qui fait quelque chose de similaire dans la région de Montréal. Mais oui, nous ici, on opère à Québec.
Oui, c'est ça. Donc, vous accueillez combien, M. Villamizar, vous accueillez combien de gens comme ça? Ben, évidemment, j'imagine que depuis 25 ans, vous en avez formé beaucoup.
Oui, bien, en fait, nous avons 30 places par année. Nous pouvons accueillir 30 personnes là, qui ont des défis au niveau de l'employabilité. Puis je vous dirais, depuis 25 ans, c'est plus de 1000 personnes là, qui ont été accueillies chez nous, puis plus de 400 personnes là, qui ont quitté justement l'aide sociale.
Et donc, c'est ça, ça veut dire, bon, ça touche, bon, quelle catégorie d'âge précisément?
Je vous dirais, ici, c'est 18 ans et plus, donc il n'y a pas d'âge comme tel. Mais la plupart de nos clients, là, je vous dirais, c'est 36 ans et plus. 53% de notre clientèle, là, c'est 36 ans et plus.
Donc, c'est sur une période d'à peu près, bon, combien de semaines que vous les accueillez?
En fait, c'est un parcours de 28 semaines. On peut aussi prolonger le parcours, c'est en fonction des besoins de chaque personne. Ce temps-ci, nous utilisons l'approche que c'est plus le parcours adapté aux capacités du travailleur. Donc, on va accompagner la personne, puis on va l'apprendre où est-ce qu'elle est rendue, puis on va l'amener dans le but de trouver un emploi par la suite.
Et là, ici, on parle d'un vrai travail rémunéré quand même.
Oui, en fait, c'est un vrai emploi, c'est rémunéré, on a le statut d'employé puis bénéficie de tous les avantages qu'un employé peut bénéficier.
Oui. Dans le cas de, bon, vous, Marianne, c'est ça, vous faites appel à des organismes, hein, je pense, pour les sélectionner, ces gens?
Oui, ça arrive. Ben, en fait, entre organismes communautaires dans la région de Québec, là, on collabore beaucoup là, avec différents organismes pour en nommer quelques-uns. Là, il y a qui travaille, qui aide les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. On a aussi des partenariats avec la Jonction. Ça, c'est plus un petit peu de l'aide à l'emploi avec les personnes qui ont un casier judiciaire. Puis, en tout cas, on a un nombre presque infini de partenaires. Là. Il y a beaucoup d'organismes là, qui sont présents pour différentes problématiques dans la ville. Là. Donc, c'est toujours agréable de collaborer entre collègues là, et puis de réussir à amener des gens qui sont peut-être pas prêts à entrer dans le marché régulier de l'emploi. Là. Donc, de les aider à s'y préparer un peu mieux avant de se lancer là-dedans. Là.
C'est ça, ça peut être une belle transition en même temps. Et puis, mais le taux de réussite à peu près, est-ce que tout le monde arrive finalement à bien s'intégrer?
Ben là, peut-être que Louis pourrait me confirmer. Là, la statistique que j'ai en tête, c'était près de 80% des travailleurs qui se trouvent un emploi suite au parcours.
C'est en plein ça. Parmi les gens là, qui finissent les parcours, qui réussissent à compléter, ben 80% là, c'est le taux de réussite. 80% de ces personnes-là, ils se trouvent en emploi, ils se maintiennent en emploi également.
Ben, c'est merveilleux quand même. Ça, vous faites vraiment une différence dans le parcours de ces gens-là.
Ben c'est sûr qu'on fait de notre mieux. Dans le fond, le but pendant généralement le parcours dure environ 6 mois. Là, donc le but pendant ces 6 mois-là, c'est de les outiller, donc de garnir leur coffre à outils de travailleurs pour s'assurer que par la suite, s'ils rencontrent des problèmes ou s'ils ils font face à des situations un peu plus difficiles, mais qu'ils soient capables d'y réagir de façon convenable, là, comme vous et moi, là, comme n'importe qui occupe un emploi. Là. Donc, c'est sûr que des fois, il y a beaucoup de travail à faire parce qu'il y a certaines personnes qui, comme je vous ai dit, là, ont des problèmes un peu plus prenants. Là, mais généralement, quand on se rend à la fin du 6 mois, là, tout va comme sur des roulettes là, pour eux. Là, oui.
Et puis, ça leur permet évidemment bon, de travailler, d'apprendre aussi en même temps un métier, mais enfin aussi de socialiser entre eux également. D'avoir c'est peut-être des fois ce qui manque, c'est ça, les rapports sociaux.
Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que, tu sais, au besoin, mon rôle, en fait, c'est d'accompagner ces gens-là puis de voir justement c'est quoi leurs besoins puis de les référer aux bons organismes si ça peut pas être répondu ici. Mais même dans le cadre là, du travail au vélo vert, on fait des activités où c'est possible justement de créer des liens. On participe à des cuisines collectives, on fait des ateliers portant sur différents sujets, on peut parler de stress, de gestion du temps, tout ça. Puis on fait ça quand même interactif là, pour permettre aux participants justement de briser un peu l'isolement là, parce que parfois, c'est ça, ils n'ont pas toujours des gens qui dans leur entourage comprennent exactement ce avec quoi ils ont à composer. Là.
Donc
parfois, ça peut les aider justement là, de former des liens entre eux puis de mieux se comprendre mutuellement. Là.
Exactement. Puis pour vous aussi, vous pouvez cibler leurs faiblesses, enfin leurs forces et leurs faiblesses, en même temps les accompagner là-dedans.
Oui, c'est ça. C'est vraiment la nature de mon rôle ici, là. Donc, c'est vraiment de prendre le temps là, d'évaluer la situation de la personne, évaluer ses ressources aussi, parce que certaines personnes, bon, vont avoir beaucoup de problématiques, mais vont avoir plusieurs intervenants au dossier, vont avoir un soutien social adéquat, tout ça. Mais il y en a d'autres pour qui le soutien social est déficient. Donc, souvent, c'est quelque chose là qui va être important là à solidifier au cours des 6 mois là de réussir à s'entourer aussi de personnes et d'outils là, qui va leur permettre de mieux composer avec les défis du quotidien dans le marché du travail.
Exactement. Donc, c'est une belle collaboration, M. Villamizard et Marianne Dumais-Campo. Et puis, en même temps, ben, il faut le dire, le vélo vert, là, c'est une véritable entreprise, c'est-à-dire qu'on peut y trouver de beaux vélos d'occasion. Alors, vous recyclez en même temps, vous réusinez ces vélos. Vous vendez aussi des vélos neufs.
Oui, tout à fait. Notre produit principal, c'est évidemment, c'est le vélo usagé, parce qu'on récupère environ 3 500 vélos usagés par année. Ce qui est bon, on va les réparer, puis on va les mettre en vente à la boutique. Les restes, on va les envoyer au recyclage des métaux. On a des vélos neufs également. Donc, pour ceux qui ne trouvent pas la bonne grandeur ou le bon modèle dans l'usager, ben, on offre quand même l'option dans le neuf. Et depuis 3-4 ans, ben, on offre aussi les vélos électriques. Donc, depuis quelques années, là, on sait que les vélos électriques, il y a un engouement pour ça. Donc, il y a la possibilité aussi de se procurer des vélos électriques dans notre boutique. On offre également les services d'entretien et réparation des vélos. Messieurs, madame, tout le monde qui a besoin de faire sa mise au point, son entretien, sa réparation, ben, on offre les services également.
C'est ça. Donc, et ce qui est intéressant, ben oui, vous pouvez bien sûr offrir les vélos d'occasion à de bons prix, mais pour le reste, vélo neuf, là, évidemment, vous ne devez pas nécessairement faire compétition avec les autres commerces, c'est-à-dire que, bon, c'est vendu au prix du marché, là, je veux dire, c'est pas...
Oui, bon, tout à fait, tout à fait. On respecte là, les prix du marché.
Exactement. Puis vous vendez des accessoires aussi.
Oui, pièces, accessoires, tout ce qui est rapport avec les vélos. Puis je voudrais aussi mentionner, dans le même volet environnemental, on fait les recyclages des barils provenant de l'industrie alimentaire, puis sont transformés en barils récupérateurs d'eau de pluie. Donc, c'est des barils là, qui servent à récupérer de l'eau de pluie, puis à l'utiliser pour arroser le gazon, laver la voiture, pour des tâches domestiques. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser l'eau potable qui coûte aussi cher à traiter.
Alors, très intéressant. Puis en même temps, ben, écoutez, vous êtes une entreprise florissante et puis vous avez gagné des prix, hein, faut le dire.
Oui, on a eu la chance là, d'avoir une belle reconnaissance en 2016, justement, par Desjardins. On a été gagnant dans la catégorie organisme à but non lucratif, entreprise par sa mission sociale puis par sa performance financière. En 2018 également, avec la CNSST, on a été finaliste pour les prix santé et sécurité de travail. Donc, c'est des belles reconnaissances.
C'est ça. Donc, vraiment, vous faites du beau boulot. Alors, un volet très intéressant à la fois, donc, on parle de bien sûr d'insertion socio-professionnelle en même temps qu'une boutique de vélos avec qui répare, qui nous vend des vélos d'occasion. Et ces vélos-là, les vélos d'occasion, ils arrivent d'où?
En fait, le vélo, ça arrive de plusieurs sortes. Donc, il y a monsieur, madame, tout le monde qui veut se débarrasser de son vieux vélo parce qu'il n'en fait plus, parce que les enfants ont grandi. On a aussi une entente avec la Ville de Québec. Donc, on récupère tous les vélos qui sont déposés dans les éco-centres. Et également avec les services de police. Donc, des vélos qui sont
carrément
récupérés
trouvés
par les services de police puis qui ne sont pas réclamés. Mais à un moment donné, ces vélos-là, une partie de ces vélos nous sont donnés également.
Bon, ben écoutez, alors vraiment, donc c'est très facile. Bon, vous êtes situé sur le boulevard Sainte-Anne dans la ville de Québec. Alors, c'est vraiment à découvrir. Et puis, en même temps, ben c'est ça, aller encourager ces gens qui veulent réintégrer le marché de l'emploi. Alors, c'est une belle mission que le vélo vert. Marianne Dumais-Campo, ça a été un plaisir de vous accueillir. Et Luis Antonio Villamizard aussi. Donc, effectivement, vous faites du beau boulot, tout le monde ensemble. Alors, merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Ça a été un plaisir. Merci à vous deux.
Bonne journée.
Au revoir et passez une bonne journée. Eh bien, nous sommes jeudi 24 août. Ça veut dire que nous sommes déjà, l'avant-dernière journée de la semaine. Alors, demain, on sera vendredi. Et puis, c'est ça. Après ça, il va nous rester une semaine seulement de M l'été. Alors, ici Chantal Lavoie, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain entre midi et 13 heures. On a de beaux invités aussi demain. Alors, autre chronique aussi. Alors, merci à Claire Guérin à la recherche et à Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Ça a été un plaisir aujourd'hui encore. Et puis, au revoir. On se retrouve demain.